تطبطبطبطبيني تطبطمصي تيني زماني الغايب عالحياة الفرحة تطبطبطبطبيني تطبطمصي تيني زماني الغايب عالحياة الفرحة.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page, Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine littéraire et musical. Moi, je lis et avec vous, chaque semaine, je partage. Pour y arriver un petit peu mieux, je chronique les ouvrages de façon tout à fait traditionnelle, j'interviewe les auteurs dès que cela est possible, et puis mon truc en plus, pas en plume mais en plus, à moi, c'est de vous proposer une playlist par ouvrage évoqué, histoire d'essayer de créer des passerelles entre le monde très fermé de ceux qui lisent et le monde très fermé de ceux qui écoutent de la musique, parce que je vois pas à quoi servent ces murs putain de merde. Aujourd'hui, ce sera un sommaire un petit peu particulier. Pas de gros focus sur un seul roman, pas d'interview d'auteur, mais trois textes sur lesquels on va s'arrêter un peu plus rapidement que d'habitude, mais s'arrêter quand même, prendre le temps quand même. Ils nous viennent de l'étranger. C'est pour ça que, faute de moyens, il n'y aura pas d'interview, parce que je ne parle pas d'autre langue que le sacro-saint français. Malheureusement, il sera question de la découverte pour moi de cet auteur qui s'appelle Tom Lanoy, qui est quand ses livres sortent en France, ils sortent aux éditions de La Différence. C'est un immense auteur, notamment de théâtre, en Belgique, en Hollande, etc. C'est un type extraordinaire, un fervent défenseur de la cause homosexuelle. Je vous parlerai de deux de ses textes. Un qui s'appelle Les Esclaves Heureux, qui était sorti donc aux éditions de La Différence en 2015 en France. Et puis je vous parlerai de ce texte qui est incroyable. Je vous rappelle que Tom Lanoy est un Belge, incroyable d'actualité, de justesse, d'urgence. Il a quasiment une dimension prophétique, visionnaire, puisqu'il est tout juste arrivé sur les tables des libraires français et qui s'appelle Gaz, plaidoyer d'une mère damnée, et qu'il est juste, mais alors tout juste question de la voix d'une femme qui a pour fils un djihadiste. Le second roman s'appelle « La douleur porte un costume de plume ». Il est signé par un jeune éditeur anglais qui s'appelle Max Porter. Il a été édité en France par un type qu'on connaît dans Rock and Page qui s'appelle Charles Recourcet, qui a un immense talent, qui a commencé sa carrière au Diable Vauvert en tant que traducteur. Il est quand même, Recourcet, c'est quand même un des traducteurs de Foster Wallace, quand même qu'on se le dise. Et ce roman-là, « La douleur porte un costume de plume » de Max Porter, c'est juste un espèce de pavé dans le monde des romans actuels, un truc qui va nous déranger bien comme il faut, mais qui va aussi nous apporter beaucoup, beaucoup de lumière. Voilà, le sommaire de l'émission, vous le connaissez, et je vous dirai bien ça, moi, tout de suite.
Scream.
Voilà, c'était The Will, un extrait du tout dernier, très actuel album de Pete Gervais. Pete Gervais qui sera en France, hein, franchement, pour vous qui avez encore les moyens de vous déplacer. Elle passe à Lyon, mes enfants, à Lyon, c'est tout près. Dans le cadre d'ailleurs des Nuits de Fourvière, qui franchement, arrêtez-vous sur sa programmation, c'est un truc à se taper la tête contre les murs. Bref, on fait des choix, on vieillit, ma pauvre Lulu, on ne peut plus tout faire. Donc on en a parlé dans le sommaire de l'émission, on va s'arrêter un petit moment sur cet auteur, Tom Lanoï, qui est né en 58 à Saint-Nicolas, qui est romancier, poète, chroniqueur, scénariste, dramaturge. Il est alors attention, il faut que je le dise, néerlandophone. C'est un des auteurs les plus lus et les plus primés aux Pays-Bas et en Flandre. Donc, il a écrit beaucoup, beaucoup pour le théâtre, beaucoup de romans, dont le très beau La langue de ma mère, qui a été traduit en français. Oui, comme je vous le disais dans le sommaire de l'émission, tous ces livres français, quand ils ont été traduits, quand ils sont sortis en France, sont parus aux éditions de La Différence. La langue de ma mère est un texte magnifique sur lequel on ne va pas s'arrêter aujourd'hui, mais c'est autobiographique et c'est sa mère qui en vieillissant et en perdant la raison, va complètement comme ça, son disque dur à elle va formater tout, et y compris l'usage de la langue, ce qui va produire chez lui un profond, profond chamboulement et une profonde interrogation d'ailleurs sur qu'est-ce qu'être un humain et au travers de cet outil qui nous distingue et qui est le langage. Alors, je vous l'avais annoncé, moi j'ai choisi de vous causer de Esclavereux, que je trouve particulièrement d'actualité, qui est un roman. Il est d'actualité pas tant par les faits historiques qui font la narration du roman, mais plus dans l'épaisseur des personnages, dans leurs conditions, celle qui est annoncée dans le titre, celle qu'ils acceptent presque bêtement, celle d'esclave, celle de mouton en quelque sorte, et dont je trouve que, ma foi, elle nous correspond bien à toutes et à tous en ce moment. Parce que je nous trouve très très endormis, très à la botte d'eux, et que ces deux personnages qui vont porter ce roman incroyable de Tom Lanoï sont aussi eux très endormis. Alors les deux héros de Esclavereux sont des homonymes belges et ils sont tous les deux dans un sacré pétrin. Alors on trouve, quand on ouvre le roman, Tony Hansen, alors le numéro 1, qui joue alors dans une scène mais d'anthologie, les gigolos. Alors il joue complètement, il joue complètement les gigolos pour la femme chinoise d'un milliardaire, qui est lui aussi chinois. Alors que Tony Hansen, numéro 2, lui, c'est un trader. Il détient des informations plus que compromettantes sur la crise financière. Et là, d'ailleurs, non seulement on se régale avec l'écriture de Tom Lanoï, mais en plus, on reprend à la conscience et on redécouvre ce que c'est l'économie, cette économie-là mondiale qui nous gouverne. Putain de... C'est-à-dire qu'on n'a plus le choix dans le vote parce que tout est là, tout se joue là. Et il y a des phrases, c'est bien là la force de ce roman-là, il y a des phrases qui tombent au milieu de phrases très construites, des remarques, des bouts de phrases donc, qui nous remettent. Tom Lanoï, par exemple, dit à un moment, ça fait bien longtemps que le produit concret et l'argent concret n'existent plus. Donc tout ce qui se joue nous dépasse, se joue jour et nuit sans nous, et nous en sommes donc devenus, avec notre libre arbitre, hein, nous avons choisi d'en devenir donc des esclaves. Heureux après, voilà. Donc ce Tony Hansen, numéro 2, là, quand on ouvre le roman, on le trouve en Afrique. Il a fui son pays d'origine tellement il possède ces informations et sa vie est en danger, et d'ailleurs celle de sa femme et de sa fille aussi. Il a tout coupé. Alors là, on reprend un coup de conscience sur comment, à quel point on est pisté, à quel point on ne peut plus disparaître dans ce monde-là. Et il s'apprête à tuer un rhinocéros, une femelle, pour pouvoir malheureusement revendre sa corne et se sortir de ce mauvais pas. Il peut plus téléphoner, il peut plus skyper, il peut plus, bref. Vous l'aurez compris, la vraie puissance, c'est l'argent. Alors, au-delà de ce récit qui multiplie les situations rocambolesques, le nouveau roman de Tom Lanoï nous parle de notre société, de cette société qui dissout nos libertés et nos identités dans une consommation dont nous sommes devenus comme le dit le titre, les esclaves. L'écriture y est très vive, on sent l'immense connaissance et intelligence de Tom Lanois derrière. Elle est très construite, et comme je vous le disais, avec à l'intérieur des phrases très justes, et c'est extrêmement rock'n'roll. Enfin, je veux dire, la scène où Tony Hansen, numéro 1, est en train de donner à cette vieille chinoise ce qu'elle veut, ce qu'elle attend de lui, à savoir des rapports sexuels, restera longtemps gravé dans ma mémoire, croyez-moi. Et Tom Lanois, finalement, en construisant son roman comme ça sur un chapitre dédié au Tony Hansen numéro 1 et l'autre au numéro 2, jusqu'à ce que leur trajectoire évidemment se croise et se percute pour une catharsis qui est complètement hallucinante. Il a voulu, et ça marche et ça fonctionne, nous mettre les doigts dans la prise électrique. Et ça, moi, je le dirais bien comme ça. C'était Tame Impala pour vous dire Esclave Heureux, ce roman de Tom Lanois qui sortait en 2015, hein, c'est pas une grande nouveauté, pour vous dire la fulgurance du propos, la course infernale que vivent les deux Tony Hansen enfermés dans leurs conditions d'esclaves modernes, tristement modernes. Notez aussi, s'il vous plaît, et là l'heure est plus plombante encore, ce texte incroyable de théâtre de Lanois, encore de Tom Lanois, sur les tables de vos librairies en ce moment. Lui, pour le coup, il vient juste de sortir en France, qui s'intitule « Gaz, plaidoyer d'une mère damnée ». Il nous propose un monologue de théâtre d'une grande force et d'une rare violence. Gaz a ceci de singulier qu'il commémore un épisode de la guerre 14-18 à travers l'évocation d'un fait d'aujourd'hui. Dans les deux cas, le gaz ayant été utilisé pour semer la mort. Une femme s'avance vers nous. Alors on l'imagine très bien, même si moi je n'ai pas assisté à la représentation théâtrale. Elle pourrait s'asseoir sur une chaise entre les deux brûleurs à gaz, ça c'est parce que je me suis documentée, et elle nous adresse la parole. Elle commémore sans le savoir la fameuse bataille de l'Isère où les troupes allemandes avaient expérimenté un gaz offensif que l'on nomma l'hypérite et qui fit des milliers de morts, dont un quart étaient des Algériens de l'armée française. Mais ce qui occupe bien légitimement la femme, c'est que son fils vient de commettre en France, en Belgique, ça nous est pas dit, et que cette femme-là, elle, pour le coup, n'est pas issue de l'immigration, et ça c'est important. Il vient de commettre, cet enfant-là, un attentat au gaz, dans lequel il s'est fait exploser avec des centaines de passants. Il a commis ce crime de djihadiste, celui qui a essayé de devenir lors de son passage en... Il a essayé de devenir djihadiste parce qu'il est allé en Syrie, et il a là-bas trouvé un refus, et il a là-bas expérimenté cette expérience difficile, âpre, horrible, inhumaine, celle d'être un étranger, de ne pas être admis, d'être un humain de seconde zone. Donc il revient avec deux obsessions, celle d'être connu par le monde entier et celle d'être reconnu par ceux dont il voudrait être intégré dans le groupe. Elle voudrait comprendre, cette femme, ce qui est arrivé à son garçon, tout en sachant que largement sa douleur est irrecevable. Celle de son fils, celle, la sienne, elle tient cependant à tout dire. L'entrée de la pièce est juste mais hallucinante, c'est-à-dire qu'elle reprend tout depuis le début, puisqu'elle essaye de façon très cartésienne de comprendre ce qui s'est passé dans la vie de son fils et ce qu'elle, elle aurait pu faire pour éviter cela. Donc elle parle carrément de la césarienne. Elle dit, ben voilà, il est arrivé dans le sang. Elle dit cette chose incroyable que seuls comprennent les animaux, mais qui font eux, et après tout, pourquoi pas. Elle dit, j'aurais peut-être dû le manger quand il était un bébé, et c'est lui qui a fini par me manger. Elle ne l'a pas fait. Je l'ai laissé me manger, moi, dit-elle. Étonnant comme il était gourmand, il est toujours resté avide, impulsif, au point d'en devenir crédule. Chaque année, une nouvelle tocade. Chaque printemps, un nouveau hobby. La célébrité. Donc cet enfant cherchait la célébrité et il l'a trouvée par le crime, puisque la célébrité serait donc, à l'heure actuelle, la seule monnaie qui soit accessible à nous tous, et c'est peut-être une des erreurs collectives aussi qu'on a fait. C'est peut-être ce qu'a recherché à tout prix ce jeune garçon qui n'a même pas été accepté par ceux en qui il voyait ses compagnons de révolte et de guerre. Donc voilà, c'est le chemin traditionnel. Il a dû rentrer en Occident et tirer son plan, comme on dit en Belgique, affreusement seul, c'est-à-dire massacré aveuglément, y compris se massacrer lui-même, en quête, oui, de renommée ou plus simplement de reconnaissance, alors pourtant qu'il n'a jamais cessé d'être aimé de sa mère et qu'il a obtenu un bac, par exemple, un diplôme. Tout cela est aussi plat et aussi triste qu'un chat labouré en Flandre. Il y a quelque chose de brechtien dans la pièce de Lannoy, une pièce qui se lit fort bien, qui est très, très facile à lire, on n'en ressort pas indemne, on en retiendra en particulier la rare franchise et simplicité du propos, du ton, cette franchise violente qui réussit à faire une volonté implacable alors qu'on ne les comprendra jamais.
There's a look on your face I would like to knock out. See the sin in your grin and the shape of your mouth. All I want is to see you in terrible pain. Though we won't ever meet, I remember your name. Can't believe you were once just like anyone else. Then you grew and became like the devil himself. Pray to God I think of a nice thing to say, but I don't think I can, so fuck you anyway. You a scum, and I hope that you know that the cracks in your smile are beginning to show. Now the world needs to see that it's time you should go. There's no light in your eyes and your brain is too slow. Can't believe you were once just like anyone else. Then you grew and became like the devil himself. Pray to God I can think of a nice thing to say. Like a child with your thumb in your mouth, I could creep up your side, put a gun in your mouth. Makes me sick when I hear all the shit that you say. So much crap coming out, it must take you all day. There's a space kept in hell with your name on the seat, with a spike in a chair just to make it complete. When you look at yourself, you see what I see. If you do, why the fuck are you looking at me? Why the fuck are you looking at me? Why the fuck are you looking at me? Why the fuck? Why the fuck?
Voilà, ça c'était Fuck You d'Archive pour vous dire la force de ces deux textes de Tom Lanoï, ce belge génialissime de justesse et de force. Donc, on vient d'évoquer Esclavereux, un roman qui sortait en 2015 chez nous, et puis Gaz, plaidoyer pour une mère damnée, cette pièce de théâtre tout juste parue chez nous aux éditions de La Différence Toujours, et d'une urgence, je vais dire, visionnaire et affolante. Sans transition, puisque cette émission est ainsi construite aujourd'hui, laissez-moi vous causer de ce roman incroyable qui s'appelle « La douleur porte un costume de plume » de Max Porter, récemment sorti au Seuil et traduit de l'anglais par Charles Recourcet, parce que c'est le premier roman de Max Porter, qui est en fait un éditeur qui vit à Londres tranquillement avec sa femme et deux ou trois enfants, je ne sais plus. En tout cas, dans la vie de Max Porter, il y a eu cette catastrophe à la base, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé seul, enfant, avec son frère et puis sa mère, parce que le père et le mari donc, de sa mère est mort brusquement, accidentellement, quand il était enfant. Il a probablement dû tirer beaucoup de force de cet affreux exercice que propose régulièrement la vie à beaucoup d'entre nous. Et il est arrivé aujourd'hui à transcender cet événement pour en faire ce que j'appellerais moi un chef-d'œuvre. Alors qu'on se le dise, ce livre n'est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il est particulièrement âpre et il est particulièrement pas du tout difficile en lecture en tout cas, mais en tout cas si vous avez envie de vous vider la tête ou de beaucoup de légèreté parce que ce qui nous entoure n'est pas léger, alors il n'est pas un moment pour vous de lire ce roman-là. La petite histoire de ce roman, c'est un père seul avec ses enfants, devant apprendre à faire avec la mort, après le décès de la femme, de la mère. Mais attention, ce roman-là, il bouscule, qu'on se le dise. Il est en fait une sorte de fable. Max Porter va nous mettre en danger, il va nous sortir de nos pantoufles. Le titre a à voir du côté de la magnifique écriture poésie d'Emily Dickinson, ça c'est une collègue qui s'est chargée de me le rappeler. Quand on ouvre le roman, on trouve le père et les deux enfants dévastés par la mort de la mère, de la femme. Les amis ont été présents et puis s'en sont retournés à leur vie. Le père ne sait même pas par où prendre le vide. Et les enfants ne comprennent pas, eux, pour leur part, pourquoi le monde entier ne hurle pas leur douleur. Pourquoi le monde entier ne s'est pas arrêté. Tous les trois sont enfermés. Tous les trois, ils sont seuls dans ce « tous les trois ». On sonne à la porte. Et derrière la porte, un corbeau. Mais alors, pas un petit corbeau. Un corbeau, genre, avec une envergure de 2 mètres. Magnifique. Non seulement il est là derrière la porte, non seulement il a sommeillé, mais en plus, il parle. Il va devenir une sorte de babysitter, une sorte de Mary Poppins, une sorte d'intendante géniale, un peu envahissante, mais d'une intelligence rare, et il mènera à bien sa mission au sein de cette famille dévastée, mission que je vous laisse le plaisir de découvrir, bien sûr, pour ceux que ce roman-là tente. Max Porter va alors, sous nos yeux grands écarquillés, s'acquitter de ce que l'artiste fait, de sa tâche, de sa mission à lui, cette fois, transcender le brut pour en faire de l'or en barre, de la lumière, du chaud, du bon, du grand. On pense à l'importance aussi de la figure du corbeau dans la littérature et dans l'imaginaire collectif époustouflant. Et on approche au plus près que l'on peut ce que veut dire le mot deuil. Époustouflant, mais alors vraiment époustouflant. Voilà, ça c'était Dalmon Albarn avec Selfish Giant. Voilà, chacun ses animaux imaginaires pour dire des choses très très fortes. Rock'n'Page, ça touche à sa fin. Merci à Bruno qui a réalisé la technique de cette émission. Je vous rappelle qu'on vient de parler de trois grand texte, deux romans et puis une pièce de théâtre. On vient de parler de Esclave heureux de Tom Lannoy, paru aux éditions de La Différence en 2015. Ça, c'est le roman. On vient aussi de parler de Gaz, plaidoyer d'une mère damnée, qui est le discours, le monologue d'une mère, d'un djihadiste qui vient de mourir en assassinant plein d'autres personnes, évidemment. Et puis, alors celui-là, il vient tout juste de sortir en France, aux éditions de La Différence aussi. C'est un très court texte. Mais je trouve que vraiment, il s'agirait de se mettre un coup de pied au cul et puis celui-là, tout le monde le lise aussi. C'est un point de vue qu'on n'a pas souvent l'occasion d'entendre et qui concerne, je crois, malheureusement, tout le monde. Ensuite, on a parlé du roman de Max Porter, son premier roman, qui s'appelle « La douleur porte un costume de plume » et qui est juste une merveille littéraire. Voilà, prenez bien, bien soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau numéro de Rock & Page.
I've got to get out of here so I can save our family from this poverty. And when I make my money, I'll send it back to you. Father, give me strength, I pray. I have to end this misery. It's causing too much pain. I'm gonna look for richer lands where the money's made. I'm gonna put my whole world in your hands. I have to put